ça veut plus rien dire. La house, c'est 100 000 trucs. Tu vas dire house à quelqu'un, il va penser Benny Benassi. Tu vas dire house à une autre personne, il va penser Jeff Mills. Tu vas dire house à une autre personne, il va penser, je sais pas, moi, Masters at Work. Tu vas dire ça à un autre, il va penser le truc pourri qu'il a entendu à la radio en venant.
De nos jours, la house n'est pas du tout à la mode. Non. La house pure. Mais je crois que la disco est peut-être encore plus out que la house, je sais pas. Mais ça va revenir de toute façon.
Pour moi, la musique dance, c'est l'ouverture d'esprit de toutes les cultures. Donc un blanc peut penser comme un black et un black peut se comporter comme un blanc.
La house, c'est vraiment une musique qui te fait ressentir ton corps.
C'est drôlement dur de répondre. J'ai 5000 disques qui permettent de répondre à la question, mais je suis pas sûr d'avoir une réponse.
La house music fait partie du vaste champ des musiques électroniques populaires, mais n'occupe pas une place clairement définie. Née sur les cendres du disco aux États-Unis dans les années 80, la house a contribué à créer la culture du club que nous connaissons aujourd'hui. Ces 30 dernières années, la musique électronique s'est diversifiée et rassemble autant de communautés et de modes que de genres musicaux. Quelle est l'image de la house music aujourd'hui ? Les compilations CD, les radios, les soirées utilisent l'étiquette house pour vendre un concept glamour, de fête et une idée superficielle de la bonne humeur. Souvent confondue avec la techno, la house est aussi devenue un terme générique. Pourtant, elle conserve encore ses adeptes, ses puristes, qui tous partagent les mêmes valeurs. Pour mieux comprendre ce qui fait la spécificité de la house, il faut remonter à ses origines les plus profondes, bien plus loin que le disco.
L'exposé ici que je donne aujourd'hui, en fait, il propose une relecture de 100 ans de musique noire américaine sous le fil de la science-fiction, des mythes futuristes, du lien au cosmos, ce que certains ont appelé afrofuturisme. Et est-ce qu'on m'entend assez là ?
Pierre de Ruisseau a organisé la conférence Black to the Future à la médiathèque du Passage 44. Il aborde les musiques afro-américaines sous l'angle de l'afrofuturisme, courant de pensée qui tisse des liens entre musique électronique, science-fiction et spiritualité. Cette idéologie est intimement liée à l'histoire que le peuple noir a vécue au travers de la traite négrière. Sous cet angle historique, la musique afro-américaine devient l'expression de cette communauté noire qui n'est déjà plus africaine, qui est au Nouveau Monde et qui, dans cet entre-deux, est à la recherche d'une nouvelle place.
C'est vraiment le principe qu'au descente des bateaux négriers, le tambour était interdit assez rapidement. Donc, et à partir du moment donné, alors que le tambour, ce n'est pas juste un instrument contre-tir pour le peuple noir afro-américain, c'était vraiment, c'est un élément super central de la culture, quoi. Et donc, c'est impossible quelque part de le retirer. On te retire la forme du tambour, mais le rythme, il est en toi. C'est comme ça que naît par exemple le beatboxing dans le hip-hop. Cette idée que le tambour, il est à l'intérieur de toi-même, qu'on ne sait pas te le retirer. L'invention de la batterie, c'est ça, de toute façon, elle naît dans le jazz. C'est une invention de musiciens noirs dans le jazz. C'est eux qui, en fait, comme on leur a retiré le tambour, ok, mais il se fait que les blancs, les européens, ils ont la fanfare et ils ont toutes des sortes de percussions, des caisses claires, des tambours, là, et la grosse caisse, là, c'est vraiment les différents éléments des percussions de fanfare qu'ils ont assemblés pour se créer un instrument qui leur permet de retrouver cet instrument rythmique. Et le jazz va vraiment explorer les percussions très fort. Hein. Et la house recycle ça. Et ce son de batterie avec le charlet et la cymbale.
La musique afro-américaine s'est construite sur la tradition des spirituels et des gospels et a toujours été le moyen pour la communauté noire de se construire une identité. Le gospel délivre un message d'espoir et de délivrance, le blues exprime la mélancolie du travailleur, la soul contribue à construire une fierté, les messages se politisent et critiquent ouvertement la société américaine. Say it loud, I'm black and proud, chantait James Brown avant de synthétiser toute la musique noire américaine dans un funk plus profane.
Le funk a une volonté de retourner à quelque chose de plus aussi fantaisiste, excentrique, et retourner à la danse, quoi. Les messages politiques, on va dire, sont moins exprimés clairement de la même façon que dans la soul. Parfois, par exemple, sur les disques de Parliament ou Funkadelic de George Clinton, c'est à travers des comics, des petites bandes dessinées qu'il exprime des messages, ou à travers des mythologies qu'il invente, hein, avec Star Child, là, des envoyés extraterrestres qui viennent apporter le funk via le détournement des ondes radio. Et là-dedans, il y a tous des messages en fait politiques et un vrai message quelque part qui parle à la communauté africaine, de l'afro-américaine, de l'importance de la danse aussi, du corps. Et que lui concevait que la danse était une manière de, un moyen de protection. Et dans le disco, et puis la house, il y a une volonté aussi de sortir un peu de ségrégations liées vraiment à la race aussi et à la ghettoisation, quoi. Ce qui a été vécu aussi d'une certaine manière dans l'hip-hop, mais on pourrait dire dans le disco et la house, c'est vécu encore beaucoup plus loin. Il y a vraiment une volonté de se réunir dans un club avec différentes personnes de différentes communautés raciales ou d'orientation sexuelle et se retrouver pour danser ensemble avec cette idée qui est un peu reprise de George Clinton sur son album là, One Nation Under a Groove. Cette idée que si tu peux danser avec des gens d'une autre communauté, tu peux vivre avec, si tu arrives à danser avec eux et faire la fête avec eux.
Plusieurs combats vont être menés dans les années 70. L'émancipation féminine, la libération sexuelle et les droits civiques pour les Noirs. La musique funk et disco offre des lieux d'expression et de liberté dont la house héritera par la suite.
Dans le funk et après dans la disco et la house qui sort, c'est vraiment aussi de pouvoir assumer toute sa fantaisie, son excentricité. C'est là, à ce moment-là qu'apparaissent des costumes de scène incroyables. C'est pas juste un message qui passe, c'est de créer un contexte qui permet une sorte de libération et de... Tu performes quelque chose, t'es pas juste en train de passer un message. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait très important, mais qui doit être vécu. T'en restes juste en termes du message qui passe dans les chansons house disco, c'est assez... Si t'en restes juste à ce niveau-là, c'est assez, ça a l'air assez simple, mais en fait, pour l'époque, c'est énorme ce qui se passe là. Un des messages, par exemple, vraiment véhiculé et bien assez explicite par Under House, dans ce morceau de... culte de Larry Heard, c'est Can You Feel It, où il raconte vraiment la naissance de la house et house, c'est la maison, quoi. Bon, ça venait aussi du club qui s'appelait The Warehouse. Il raconte vraiment, mais avec vraiment une voix très soulful, une manière de déclamer, c'est très proche de presque d'une prêche baptiste afro-américaine, quoi. Comment ils sont en train enfin, de créer cette sorte d'institution qu'est la house, mais là, vraiment que la maison qui permet une maison pour toutes les communautés et qui accueille tout le monde et qui n'a pas de distinction et tout le monde est là pour se retrouver dans la fête et l'amour. Et il finit par dire « And this is fresh ». Et ça, c'est frais, c'est nouveau, c'est une nouvelle vibe. Et la house, c'est plutôt, je dirais, une sorte de vibe et d'expérience qu'une revendication.
Jean-Philippe Renoux se décrit comme un observateur des musiques électroniques. Il a été rédacteur en chef du premier mensuel français dédié aux musiques électroniques, CODA, et a travaillé à FG, la radio qui popularise la house en France dans les années 90. Avec son confrère, Jean-Yves Leloup, ils écrivent Global Techno en 1999 et décident d'aborder la musique électronique par immersion totale en se rendant au cœur même des villes et des communautés qui ont fait l'histoire de la techno et de la house. Dans son appartement parisien situé à Barbès, Jean-Philippe Renoux explique le versant afro-américain qu'il a exploré de la musique électronique.
Et puis c'était un petit monde, c'était très marrant. C'est-à-dire que on disait House Nation. Alors il y avait une jolie utopie dans le mot House Nation. Mais c'est aussi parce que c'était un petit truc d'initié qui pouvait se partager facilement, mais effectivement, il y avait ceux qui aimaient et ceux qui n'aimaient pas. Donc ça faisait comme ça une espèce de tribu comme ça, globale et mondiale. D'où le mot d'ailleurs global techno, parce qu'on voyait bien qu'arrivait un son comme ça, globalisant, mais comme si ça pouvait être une forme de globalisation positive. Quand on dit globalisation, c'est effectivement plutôt négatif. C'est Coca-Cola partout, Gap partout, enfin, c'est forcément tout le mauvais côté qu'on lui connaît. Mais comme de toute façon c'est un truc en marche, tout se globalise, Internet, quoi que ce soit, tout d'un coup qu'une forme d'expression comme ça, et issu du ghetto, il faut le rappeler, donc la house, deviennent comme ça un vecteur globalisant fort, et qu'à chaque fois, ça puisse trouver finalement, selon le territoire où ça va atterrir, une particularité à soi. C'est-à-dire qu'effectivement, le son de la house anglaise n'est pas celui de d'Ibiza, n'est pas celui d'Allemagne, n'est pas celui de Chicago, ni même de Détroit. Donc il y avait à la fois une globalisation et puis une localisation dans ce global. Alors du coup, les villes sont devenues les héroïnes du livre. Global Techno se découpe en 12 chapitres. En tout cas, je vais essayer de les rappeler dans l'ordre. On commençait par New York, après Detroit, Chicago, Berlin, Londres, Ibiza, Paris, Vienne.
Bruxelles ?
Bruxelles, on l'a raté. Alors peut-être pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le New Beat qui était assez horripilant.
La New Beat émerge en Belgique dans les années 80. Elle est souvent perçue comme une sorte de house un peu vulgaire qui copie celle de Chicago. Nous reviendrons plus tard sur ce phénomène. Pour l'instant, Jean-Philippe Renoux explique comment la techno est née à Détroit.
Détroit cultive l'électro aussi parce que c'est une ville ultra technologique, Détroit. C'est ce qu'il a défini, en fait. Une technologie à la fois glorieuse et à la fois injuste, puisque quand sont arrivées les grandes années de la construction automobile, du taylorisme, etc. à Détroit, hein, c'était l'épicentre un petit peu de la construction automobile, s'en sont suivies une récession qui a commencé dans les années 70, enfin amorcée à la toute fin des années 60, suite à des émeutes raciales. Il y avait les mêmes à Harlem, New York, ou bien à Watts, Los Angeles, mais celles qui ont été... qui ont eu lieu à Détroit avaient été assez véhémentes, peut-être moins médiatisées, et surtout avaient finalement fait fuir le bourgeois, et les industries de la ville avaient déménagé en banlieue et voire très, très au-delà. Donc Détroit, défini par sa technologie, s'est trouvé aussi assez exsangue et avec une technologie qui tournait à vide. Mais comme naturellement tous les kids de Détroit avaient été élevés dans ce climat-là, ils ont gardé l'électro comme vraiment une espèce de blues local à eux, quoi. Et ils s'appellent déjà techno parce que Ron Atkins avait justement fait un morceau qui s'appelait Techno Soul of Detroit. Et donc tac, le mot était lâché. 3, 4.
En 1913 apparaissent les premières lignes de montage du travail à la chaîne dans les entreprises Ford de Détroit. Les Noirs qui fuient les lois ségrégationnistes du Sud deviennent les ouvriers de ces usines. Les pionniers de la techno sont tout entiers marqués par ce rapport entre l'homme et la machine. La techno s'engage ainsi dans l'aventure d'une musique purement électronique qui se libère des instruments et explore le son des machines, ce qui n'est pas le cas de la house, qui naît à New York et à Chicago à mi-chemin entre un passé disco et un futur électro. Elle devient surtout une chapelle pour le pire des ghettos, les noirs homosexuels.
La house, elle est beaucoup plus chaloupée, elle est beaucoup plus sensuelle que la techno. Techno a souvent un BPM qui dépasse les 130, la house est quasiment constamment à 120 BPM. Donc c'est en accord avec le rythme du cœur, hein, ça dit beaucoup de choses quand même. La techno, même si elle est née aussi dans les clubs, hein, de Détroit, va vite migrer et en traversant l'Atlantique donner lieu à des rituels festifs, donc les rêves, etc. Donc déjà, le fait d'adresser sa musique à un public de club ou un public de rêve, c'est très très différent. La house touche d'abord un public gay. Elle naît en fait dans la communauté gay et dans cette communauté-là, dans la communauté black. Donc autant dire le ghetto dans le ghetto. Parce que être homosexuel et noir aux États-Unis, c'est pas facile. Et paradoxalement, les communautés qui inventent la house, justement parce qu'elles sont black et gays et à moitié à la rue, parce que rejetées par leur famille, parce qu'elles sont sans le sou, parce qu'elles sont sans emploi, parce qu'elles sont des fois ravagées par le sida, par la drogue, finalement vont se retrouver dans des notions comme ça, communautaires, très simples, mais très forte, intégrant pour beaucoup l'héritage gospel qu'ils avaient eu. Et ça, le gospel fait un lien évident avec la house. Oui, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose comme ça, très spirituel, qui se dégageait d'un dance floor, alors qu'on soit croyant ou pas. Effectivement, moi, j'ai pu vérifier aux États-Unis que tous, comme ça, venaient d'un héritage gospel fort, que à peu près n'importe quel single de house, de toute façon, est crédité thanks to God quelque part, quoi. Chose qu'on voyait pas ici, puis qui paraît très ridicule, mais bien sûr, il y a quelque chose de cet ordre-là, là-bas. Parce qu'effectivement, de toute façon, les États-Unis dans leur globalité se construisent sur cette notion de communauté. Hein. Des DJ comme Tony Humphries, ils ont commencé quand ils étaient gamins à chanter dans les chorales. Et pourquoi ils chantaient dans les chorales? C'est même pas qu'ils voulaient, les parents les obligeaient, parce que sinon ils étaient dans la rue avec les dealers. Donc c'est ça, c'est vraiment le fruit d'une éducation.
Outre la tradition incontournable du gospel, c'est le disco qui forge la house. Le DJ Larry Levan fut l'un des premiers à retravailler les morceaux disco, soul et funk à l'aide de techniques de mix et d'une boîte à rythme, créant le style garage, précurseur de la house.
Alors le disco, le problème du disco, c'est qu'il a une mauvaise étiquette, celle d'une espèce de dance music commerciale, dont on nous a énormément rabâché les oreilles dans les années 70, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait le punk, il y avait le disco. Moi, à 16 ans, à 15 ans, j'étais évidemment dans le punk, le disco, c'était l'ennemi. Mais finalement, la vraie contre-culture, elle était dans le disco. J'ai compris ça bien plus tard, justement, quand j'ai vu que la house était quand même foncièrement un pied dans le disco. Elle avait aussi un pied chez Kraftwerk, un pied même dans la musique expérimentale ou la musique concrète, mais elle avait évidemment un pied dans le disco. C'est de découvrir justement ces remixes à rallonge totalement incroyables, ces trucs de Larry Levan, de Walter Gibbon, de Nicky Chiano. Et là, on découvre effectivement des morceaux disco totalement vaudou, avec une transe totalement incroyable, qui n'étaient jamais passés à la radio. Et on était effectivement dans ce disco chanté, diva, soulful, mais des fois un peu trop chanson, évidemment. On peut reprocher ça au disco. Et alors paradoxalement, quand on rentre dedans, moi là où les divas gospel m'ennuyaient, quand j'ai vraiment commencé à comprendre le truc, j'ai adoré. Parce qu'effectivement, c'est un vrai truc, c'est un vrai message. Qu'est-ce que tu veux contester une grosse femme noire qui chante « Love, 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 aimons-nous les uns les autres, oh mon mari, ne me quitte pas ». Ok, c'est fait pour ça. On n'a pas à être intellectuel sur une chanson comme ça. La house n'a jamais été intellectuelle. La techno peut-être un tout petit peu plus, parce qu'effectivement, elle était plus abstraite, il y avait très peu de paroles, et encore moins de chants dans la techno. Il y en a eu, mais c'était relativement rare.
Quelques stations de métro plus loin, dans le Jardin des Halles à Paris, David Blo, journaliste aux Inrock et à Radio Nova, fait le point sur la perception du disco en France. En 1999, il coécrit une bande dessinée avec Mathias Moncousin, Le chant de la machine, qui retrace les origines disco et soul funk de la house et de la techno. Pour David Blo, la disco a longtemps souffert d'une image ringarde en France. Pourtant, c'est elle qui fournira la majeure partie des samples qui feront les hits de Daft Punk ou Bob Sinclair. Cette house teintée d'une touche à la fois kitsch et sophistiquée, que les journalistes anglais nommeront French Touch, fera un tabac dans le monde entier.
Je me disais que c'était drôle, d'ailleurs l'éditeur avait un peu de mal à le comprendre au début, mais parce que quand on commençait à le vendre, bon, la French Touch justement se mettait à marcher, il y avait les premières technoparades ou des trucs comme ça, donc je croyais vraiment qu'on allait parler de ça. Or, ce qui nous intéressait, et on savait qu'on surprendrait les gens en revenant à des origines de cette musique qui sont finalement très soul, enfin d'un côté très soul, funk et disco, mais le disco c'est de la soul, du rhythm and blues et tout ça, et de l'autre côté très Kraftwerk, New Order, des choses très rock, enfin très rock, dans l'esprit en tout cas, très blanche, et c'est vraiment la rencontre de ces deux musiques. De toute façon, il y avait après une mauvaise conception dès le départ, là c'est la techno, comme un truc genre, parce que c'était de la dance music, c'était très commercial. Vraiment, il faut se replonger au moins en France dans les années 80, tout ce qui était dance, c'était commercial, c'était vraiment on restait encore sur l'anti-disco à fond. Alors que c'était complètement absurde, parce qu'en fin de compte, dans les années 80, c'est le rock qui était devenu une machine, même les trucs inrecuptibles et tout, c'était commercial, et ce qui était vraiment underground, c'était justement cette musique qui venait de la disco. Et après, une fois qu'on voit là aussi, on s'aperçoit que la manière dont là où le disco a été représenté en France était quand même très très loin d'un certain nombre d'origine américaine, c'est-à-dire que pour nous en France, et pourtant on a été un gros pays pour la disco, mais symboliquement, bon, c'est un peu certain d'un Night Fever et des choses comme ça. Or ça, c'est vraiment un film qui est arrivé sur le tard en fin de compte, et qui est un très bon film d'ailleurs, je trouve, mais qui est quand même une vulgarisation, enfin pas tellement sur la disco, c'est un film très spécial parce que c'est un film très très noir en fin de compte, mais c'est quand même une vulgarisation de quelque chose qui à la base était plutôt gay et black. Or Saturday Night Fever, c'est tout sauf gay et black, donc en France on est quand même resté, et puis alors avec les n'importe les Sheila, tout ça, qui faisait de la disco, enfin tout le monde faisait de la disco, on peut trouver Johnny disco, Claude François disco. Il y a des... Donc on a vraiment une image de la disco qui était assez triviale.
Donc on peut dire qu'il y a eu un traumatisme disco après ces années-là où finalement cette musique a été très mal perçue.
Bah, un peu, ouais. D'abord, aux États-Unis, ça a été beaucoup plus fort qu'en France. Mais ça, c'était vraiment un truc quasi raciste aux États-Unis. Ça a été très, très violent, ce qu'on appelle le backlash, le retour de bâton.
At Beansworth White Sox Park for a radio station promotion. En 1979, Steve Dahl, DJ dans une radio rock, invite des milliers de gens à venir brûler des vinyles disco au stade de football de Chicago, le Comiskey Park. Cette action symbolisa le rejet homophobe et raciste du disco. David Blow revient sur ce qui a fait le succès de la French Touch. En 96, il lance avec des amis les soirées Respect à Paris, soirées house qui s'exporteront à Bruxelles, Copenhague et New York. La France, qui jusqu'alors était le pays le plus ringard au niveau musique, devient tout à coup une image de marque qui fait vendre les disques house. La French Touch doit en partie son succès à l'élaboration très sophistiquée de cette image qui manquait à la house.
Quand on avait une maison de disque en Amérique pour Respect, et enfin c'était Astralwerks, donc c'était Virgin là-bas, et le type a dit quelque chose qui vraiment, on lui avait demandé, c'était Envoyé Spécial, qui faisait un reportage sur la French Touch, et qui lui a demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de différent, et il dit que les Français travaillaient incroyablement l'image. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on voit la différence, bon, l'anglais moyen travaille énormément son image, bien évidemment, mais il y avait beaucoup de trucs vulgaires, de fractales, des trucs comme ça, l'univers trans par exemple. Ou alors les Américains complètement déconnectés, car ils pouvaient faire des morceaux merveilleux, ils avaient quand même l'air de chanteurs de R&B ou de choses comme ça, donc les gens ne voyaient pas forcément la différence. Et c'est vrai que quand on pense au début de Daft Punk, de Super Discount, de Dimitri et tout ça, même de Bob Sinclar, même de tout était Yellow Prod, donc c'était le label de Bob Sinclar, il y avait énormément de travail sur l'image, sur... Donc voilà, comment les Daft Punk sont devenus le groupe qui a popularisé vraiment la house dans le monde entier. Eux, c'était vraiment, on prend la house de Chicago totalement underground, hein, et on, sans se corrompre, on arrive à en faire quelque chose de beaucoup plus grand public. Donc c'est ça, voilà. Ils ont ramené un peu, ils ont repris un peu le truc disco qu'ils avaient, un truc un peu plus funky, des choses comme ça.
Et donc justement, ce côté où on travaille vachement l'image, c'est un peu du marketing finalement. Est-ce que la French Touch n'aurait pas ouvert un peu une place à cette house très commerciale qui passe sur les radios donc ?
Elle a influencé évidemment le filtre, donc on va dire le son filtré, ce qu'on appelle le son filtré, qui vient un peu de Chicago, qui était complètement confidentiel. Des trucs comme Daft Punk et en grosso modo la French Touch, à Respect, on n'entendait que ça en 96. Ça a effectivement influencé tout ce qu'on entend sur la FM.
Le 12 septembre 2009, Dimitri from Paris est de passage à Bruxelles. Il est l'invité d'honneur de la soirée Soul Funk Strictly Niceness organisée par Bernard de Belair. Dimitri from Paris a commencé sa carrière à Skyrock puis Energy en 1987 et fut le premier à diffuser sur les ondes radio françaises ce mélange de disco-funk et musique électronique qu'on appellera house. En 96, il sort l'album Sacre Bleu dont 90% des ventes se feront aux États-Unis et au Japon. Et pour cause, il utilise avec humour une image rétro de la France, abusant volontairement des clichés qui fait son charme. C'est la quintessence de la French Touch, qu'il dit considérer comme un concept fumeux de journaliste.
Vous dansez, mademoiselle ?
Sacré français !
Les gens qui ont commencé à faire de la house music, a priori, on dit que ça a commencé à Chicago. Ils voulaient faire du disco de Philadelphie, mais ils avaient qu'un synthé qu'ils avaient acheté à la vente, à la brocante du coin, et une boîte à rythme qui venait du même endroit. Bon, alors que le disco qu'ils aimaient, c'était fait avec un orchestre de 30 musiciens, eux, ils se retrouvaient avec une boîte à rythme et un synthé. Donc, juste physiquement, matériellement, mathématiquement, ils ne pouvaient pas faire la même chose. Donc, le manque de moyens a donné un son caractéristique qui est le son des premières musiques électroniques des années 90, que les gens ont pris comme une révolution, mais c'était plus par défaut que c'était comme ça que par réelle envie.
À partir de sa propre expérience de DJ, Dimitri from Paris propose une genèse de la house. Il tient à remettre les choses dans leur contexte et relativise la portée spirituelle du message véhiculé par la house. Elle est avant tout une musique utilitaire qui vise à faire danser les gens.
Moi, je pense que la vraie petite révolution qu'a eu dans la dance music, c'est que ça a été une musique faite par des gens qui ne savaient pas faire la musique, mais qui savaient faire danser les gens, c'est-à-dire faite par les DJ. À Chicago, ou à New York, ou même à Paris, puisque moi-même j'ai fait ça. J'aimais une musique pour faire danser les gens, faite par d'autres gens, À un moment, j'ai pu m'acheter une petite machine pour faire boom jack, une petite boîte à rythme. Et moi, tout seul, dans ma petite chambre, tout chez mes parents, je pouvais faire des rythmiques. Et après, j'ai pu m'acheter un petit synthé pour aller avec. Et puis, je pouvais faire une petite ligne de basse. Et puis, faire des petits accords. C'était n'importe quoi, je faisais ça avec deux doigts. Mais je le faisais tout seul. J'avais pas besoin d'aller payer un musicien. J'avais pas besoin de louer un studio pour pouvoir avoir des instruments branchés sur une sono, etc. Donc, j'étais totalement libre et indépendant de faire ce que je veux sans rien demander à personne.
Dès le départ, la house est une micro-économie. Avec très peu de moyens, un label facile à créer, un bon DJ, on pouvait faire un tube de dance floor, le tirer à des milliers d'exemplaires et le faire voyager à vitesse grand V grâce à un réseau qui connectait les DJ entre eux, même avant Internet.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait leur petit truc dans leur coin et puis ils ont réussi à les mettre sur une cassette. La cassette, ils l'ont emmenée au club, ils ont joué dans le club où ils jouaient, ils l'ont donné à leur copain DJ. Et ils ont vu les gens faire « Waouh, c'est quoi ça, c'est super !» C'est dit « Ah merde, j'ai fait un truc dans ma cuisine avec trois trucs et les gens sont en train de kiffer, il y en a 400 qui kiffent. » Donc là, ça a été aussi une vraie révolution. Le mec s'est dit « Mais j'ai besoin de personne et j'arrive à toucher plein de gens. » Et là, le business a commencé à arriver. La démarche, elle est toujours un peu comme ça. Tu fais un truc qui vient de toi et tu as envie de le faire écouter aux autres, tu as envie qu'ils aiment, quoi. Donc après, tu peux avoir très 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 envie qu'ils aiment, tu peux avoir envie qu'ils aiment à tout prix, donc c'est là que ça commence, si tu veux. Peut-être que David Guetta, il a envie que les gens aiment à tout prix, ou peut-être qu'il a envie de gagner beaucoup d'argent, ou... Après, il y a toute une chaîne de paramètres qui font que si lui calcule sa musique pour que ça plaise à un maximum de gens, sans nécessairement se faire plaisir, mais il dit « je vais prendre un bout de ça, je vais prendre un bout de ça », et fait la recette, il essaie de trouver la formule magique, bon, à un moment, il peut peut-être la trouver et ça marche.
Dans un reportage envoyé spécial consacré à David Guetta, la caméra suit le DJ dans sa tournée mondiale et captive les moments de création. Dans un taxi, à l'aide d'un simple synthé et d'un logiciel informatique, Guetta compose son futur hit à trois doigts et deux accords.
Il ne faut pas oublier que c'est quand même une musique relativement simple, dont le but premier, c'est l'efficacité, c'est-à-dire faire danser les gens. Et aujourd'hui, David Guetta, c'est une musique qui est faite pour danser, et ça ne va pas chercher midi à 14h. Mais si tu remets les choses dans leur contexte d'époque, le mec va te dire, mais attends, mais le disco, c'était quoi? C'était des musiciens de studio payés à l'heure, qui cachetonnaient parce que le disco, c'était à la mode, et qu'il fallait en faire 13 à la douzaine, et que... Bon, mais comme c'était... Il y avait un facteur humain, malgré tout, même si les gens étaient payés, il y avait un facteur humain, forcément il y avait un peu plus d'erreurs humaines et puis d'inspiration aussi. Donc il y avait un côté plus organique avec tout ce que ça peut avoir d'intéressant. Et aujourd'hui, c'est ce qui me manque le plus moi dans la musique, c'est que le côté organique est complètement... ça existe de moins en moins, parce qu'on fait ça de manière mécanique, et que plus c'est mécanique, plus on peut calculer ce qu'on fait, et que plus on calcule, moins il y a de spontanéité, et puis ça devient un espèce de produit formaté de plus en plus, de plus en plus.
Même si cela reste très confidentiel, des férus de house continuent à défendre son versant organique qui la différencie des autres musiques électroniques. Bart Van Nest est l'un des DJ vétérans de la scène house en Belgique. Dans son magasin de vinyle situé en plein cœur de Gand, il raconte une expérience inédite entre un célèbre DJ américain au clavier, une chanteuse jazz en impro et un DJ flamand au platine.
C'est l'expert disco ici.
Ah, mais tu
peux. Je vais te faire un petit paquet. Je vois donc l'air de bain, des trucs comme ça.
D'abord, je jouais au 10 Days Off avec la chanteuse Lady Lynn et on jouait après Kerry Chandler qui était main guest. Kerry a toujours un keyboard avec lui pour jouer en live et il n'a pas touché pendant son set. Et moi, j'ai dit à Lynn, écoute, je vais dire de jouer. Et je lui ai demandé, Kerry, t'as pas touché le keyboard, c'est quoi ça? Et il dit, non, j'avais pas envie. Et j'ai dit, tu connais ça? C'est son propre truc. Il a dit oui. J'ai dit, joue. Il a commencé à jouer. Et la chanteuse a commencé à chanter, il a regardé c'est quoi ce qui se passe ici. Et là on a joué avec nous trois pendant 3 heures. Et là j'ai eu l'idée, tout le monde qui était là était vraiment, qu'est-ce qui se passe, ce mec de Gand qui joue avec Kerry Chandler. On voit toujours percussion, on voit toujours saxophone, mais pour moi c'était une évidence avec une bonne voix.
take a turn, it's hard to follow. How did the idea come to play, to sing on house music? It is completely different than jazz. So how did it come?
Well, for me, it's not completely different than jazz because it's soulful music, black music, it's warm.
Lady Lynn, chanteuse de jazz.
The lyrics are both positive lyrics, but in jazz, I think, especially the swing jazz, I think the lyrics are ironic, and I like that. Whether as in house music, it's more gospel inspired, I think. It's more, serious, but hopeful and positive, and I also like it.
C'est justement ça, la soulful house. Ça veut dire que quand tu fais un morceau et que ce morceau-là peut être joué en live, tu as réussi ton pari. Il y a quelqu'un, un DJ très connu qui s'appelle Rasmus Faber, un Suédois, qui fait des morceaux magnifiques. Il a fait le conservatoire de musique, donc c'est un pianiste hors pair. Et lui, il a un morceau assez connu qu'il joue souvent en boîte. Et il a essayé une chose une fois, c'est qu'il jouait ce morceau. Et tu as le milieu du morceau, tu as un break où tu as juste le piano qui passe. Donc il est en train de mixer, il est en train de DJ, et puis arrive le passage de ce break au piano. Il a arrêté les platines, il a coupé, il a sorti un clavier qu'il a branché. Il a fait ce solo piano en live, et derrière, un rideau s'est ouvert, et tous les instrumentistes derrière, donc un percussionniste, un chanteur était là, et tout le reste était un concert live. Et lui, il a fait exprès pour dire, voilà, la musique que je fais n'est pas de la musique électronique, c'est de la vraie musique. La preuve, la voilà.
Younes a fondé un label de Soulful House, Soul It. Aussi compositeur, il s'est d'abord fait connaître grâce à un label anglais, Head Candy, racheté par le club londonien Ministry of Sound, qui vend une image très glamour de la house. Ensuite, c'est plutôt dans la communauté flamande qu'il a trouvé une certaine reconnaissance.
C'est vrai que le concept de faire une soirée Soul It, c'est intéressant, mais au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais le faire qu'en Flandre. Je peux dire qu'avant, j'étais dans une phase où je construisais le label, construire la réputation du label, et j'avais signé une licence chez Ministry of Sound qui m'avait bien aidé aussi à faire connaître le label. Puis il y a eu Atulado qui est sorti sur une compilation, il y a bien évidemment énormément de Belges qui ont écouté ce morceau, notamment en Flandre. Il y a eu une soirée sur cette compilation, une soirée Beach House qui a été organisée ici au Carré. Et puis une fois j'ai contacté la VRT, l'animateur Mark Heining, qui avait joué ce morceau-là, en le remerciant de l'avoir joué, et il m'a demandé « Mais tu viens d'où ? D'Amérique ? D'Angleterre ?» Je dis « Bah non, je suis à 5 minutes des studios, 5 minutes de la place Mazer, je suis de Bruxelles. »
Et donc, c'est plus les Flamands qui ont été réceptifs à ta musique ?
Oui, clairement oui. Les Flamands ont une mentalité différente par rapport à Bruxelles et au Sud, c'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus ouverts à la musique, beaucoup plus ouverts à découvrir d'autres styles de musique. Ils sont un peu comme les Hollandais. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, chacun a sa place en fait. Tu as les gens qui aiment la soulful, qui ont les clubs soulful, tu as les gens qui aiment la techno, qui ont leur coin. Et donc, c'est bien organisé, tu ne sens pas qu'il y a une différence en fait. Chacun a son coin. Si tu aimes la soulful, bah, tu sais quels sont les coins où tu dois aller. Cette même mentalité-là en Flandre, voilà, tu aimes la techno, bah, tu vas là. Tu aimes la soulful, tu vas là, mais tu as des coins pour tout le monde. Malheureusement, ça n'existe pas à Bruxelles et en Wallonie. Je ne connais pas de club soulful à Bruxelles.
Quelle représentation de la house ont les Bruxellois? Il semblerait que la house d'obédience afro-américaine, moins commerciale, trouve plus sa place dans la communauté flamande que dans celle des francophones. Les radios francophones, comme Pure FM, ne comporte aucune émission consacrée à la soul, au funk, ni au disco et à la house. En revanche, Studio Bruxelles et FM Bruxelles ont ménagé quelques créneaux pour cette musique. Le collectif Onda Sonora anime une émission sur FM Bruxelles et défend clairement les musiques afro-américaines dans leur plus pure tradition, de la soul jusqu'à la house. Onda
Sonora. Une bonne soirée, c'est une soirée que tu vis émotionnelle. Moi, j'ai déjà vécu des soirées en New York où les gens ils commençaient à pleurer parce qu'ils savent et ouais, ça leur touche.
En Belgique, tout le monde danse sur lui, fait sa petite danse sur son mètre carré. Ici en Belgique, peut-être c'est pourquoi la musique soulful ne prend pas. tout le monde est dans son univers à lui.
C'est pour cela aussi qu'on travaille vraiment avec des invitations. Donc nous, on t'invite personnellement à venir à our party, à notre soirée. Et c'est un peu plus familial.
En Angleterre ou dans des parties de l'Amérique, ils ont une culture de house, une culture de musique, ouais, soulful. Il y a des Jamaïcains, il y a des Africains qui sont là depuis 5 ou 6 générations, qui sont partis dans leur culture, mais partis dans la culture d'ici, et qui ont fait leur mix. Et des gens comme Norman Jay, ils sont la base de la musique que nous, on connaît.
Oui, aussi les gens là qui sont nés aujourd'hui, ils agrandissent avec de la musique comme ça. Quand on va à Londres, à Notting Hill Carnival, il y a Norman Jay qui joue des disques deep jazz ou des trucs dub à midi. Et il y a tous les gens de là-bas qui viennent avec leurs petits-enfants.
Les gens sont élevés avec du rock. Et peut-être ceux de 15 ans maintenant avec du techno, mais rarement avec du soul.
Le classement des catégories musicales à la médiathèque du passage 44 est assez révélateur. La collection pop rock est la plus grande avec 27 500 CD et la catégorie soul, funk, disco en possède 8 700. La sous-catégorie techno house, quant à elle, possède 1 300 CD. Lorsque cette catégorie a été créée il y a 30 ans, c'était pour classifier des groupes comme Kraftwerk ou Front 242 d'obédience rock et blanche. Jean-Grégoire Muller, chef de centre au passage 44.
La majorité de la musique électronique est intégrée à la collection pop-rock. Ce sont historiquement les développements de la musique électronique dans la sphère du rock, avec, pour citer que des grands noms, Kraftwerk. Puis la pop électronique, il y a quand même beaucoup de pop électronique dans les années 80, l'électro body music, hein, des trucs comme Front 242, etc. Il y a un autre pan de la musique électronique, mais je veux dire plus restreint en termes du nombre de titres, c'est une partie de la house où là les prospecteurs, et ça, c'est historique, hein, ça date d'il y a 15-20 ans, on rattachait ça à la tradition de la soul et pas à la tradition du rock. Et donc on trouve un certain versant de la house, en général plutôt house américaine, qui se retrouve dans notre collection soul.
Au moment où New York et Chicago inventaient la house à base de soul, funk et disco, des groupes de rock allemand et anglais avaient déjà commencé à intégrer les nouveaux instruments synthétiques à leur composition. On parle alors de musique planante, de post-punk, krautrock ou new wave. Des groupes comme Tangerine Dream, Kraftwerk ou New Order ont eu une influence déterminante sur la musique électronique en Europe. Les sonorités sont plus froides et plus industrielles, frayant ainsi un chemin pour accueillir la techno de Détroit. Depuis une dizaine d'années, Berlin diffuse en Europe le virus de la minimale, house épurée et mathématique. Geert, DJ et disquaire, s'est installé à New York et à Londres avant d'ouvrir un magasin de vinyle à Bruxelles. Cela fait plus de 15 ans maintenant.
Ici, il y a beaucoup qui viennent des États-Unis, d'Allemagne. Mais Allemagne, c'est parce que ça s'est vraiment devenu, les dernières 10 ans, la force majeure en musique dance. Quand tu retournes 20-22 ans en arrière, tu avais ça en Belgique. Parce que Belgique, c'était le pays ou que tu pouvais sortir 6 jours sur 7. Bruxelles portait dans les années 80 vraiment le nom d'être une ville alternative. Des trucs comme très tard dans les 70, début des 80, on avait des trucs comme Fat Gadget, comme Depeche Mode et tout ça qui signaient à Bruxelles et pas ailleurs. Hein. Ici, tu as eu Factory Benelux. Hein. Donc Factory Benelux, c'est l'équivalent de Manchester, mais c'est au Bruxelles. Donc, il y avait des trucs comme Joy Division et tout ça. Ils venaient ici, en concert. Donc, tu avais des racines très, 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 très alterno-blancs qui tournaient fort ici dessus. This is Belgium.
Fatal Error. La New Beat voit le jour au club Boccaccio dans la région flamande de Gand, quand par accident, le DJ Marc Groels ralentit le rythme d'une chanson. La New Beat s'inscrit dans la lignée de l'Electro Body Music, musique électronique créée par le groupe belge Front 242 en 1982. Ils veulent se débarrasser des influences afro-américaines alors dominantes. Les sonorités sont industrielles, plus froides et minimalistes, mais conservent néanmoins une rythmique dansante.
Sans la New Beat, il n'y a pas de scène électronique en Belgique. Sur la New Beat, à un moment ou à un autre, on avait trouvé que certains genres musicaux, de nouveau alternatifs, mais dansants, marchaient très bien ici. Donc on prenait un peu de n'importe quel genre de truc et on jouait ça ensemble. À un moment ou à un autre, on s'est dit, OK, on va imiter ça. On va commencer à faire de la musique qu'on aime bien. Et ça, c'est devenu de la New Beat. La New Beat, c'est la synthèse belge totale. Mais c'est aussi une des premières fois que ça se montrait que tu avais juste besoin de certaines bases et que tu pouvais mettre n'importe quoi là-dessus et que ça pouvait marcher. C'est un peu la renaissance en mauvais goût de disco. La New Beat, c'est un truc très magique qui est si noir que blanc. Mais parce qu'on était réduit en moyens pour imiter, ça c'est devenu un truc cru.
Il est toujours difficile de départager le jeu des influences sans faire de généralités réductrices et de clivages artificiels. Néanmoins, la communauté flamande semble plus ouverte que les francophones aux musiques afro-américaines dont la house.
Le truc qui est là avec la Flandre qu'il faut de nouveau savoir, c'est qu'il y a la mer à côté. Ça semble ridicule, mais tous nos imports en disques, ça venait des États-Unis. Le premier partenaire d'échange de disques qu'on avait, c'était en fait les Américains. Donc, c'est quoi qu'on importait ? La musique des États-Unis. Et tout ce qui sortait pour danser en boîte était black pour 80%.
La musique black est devenue très populaire dans les années 60, grâce notamment au label Motown, dont les titres à succès ont rapidement occupé les premières places des charts américains. À la fin des années 60, cette soul commence à décliner, mais des viviers de fans inconditionnels subsistent en Angleterre et en Belgique. La Northern Soul à Manchester est la scène popcorn en Flandre qui naît à Ostende.
La seule scène qui compète avec Northern Soul dans le monde, c'est la scène popcorn belge. Donc tu as des DJ qui prenaient l'avion, qui allaient gratter les fonds de stock aux States pour trouver la perle rare. Donc ici, tu as eu des drôles de trucs. Et on a eu Mohamed Ali, le boxeur, il avait fait un morceau qui s'appelle Stand By Me. Et c'était un peu entre James Brown et lui, il parlait juste les paroles de Stand By Me là-dessus. Ici, ça a fait un hit. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Et aussi, bêtement, hein, quand tu as 10 ans et tu es flamand, tu regardes sur la télé la version d'origine de quelque chose et donc tu entends, tu vas à une série policière des années 70 et c'est quoi qu'il y a là-dedans? La musique Blaxploitation. Tu l'as ramassée sans savoir. Donc tu regardes un autre truc et c'est un truc top of the pops. Donc tu vois James Brown avec Sex Machine devant ton nez quand tu as 6 ans. C'est pas un truc branché là, hein. C'est vraiment, ça fait partie de la culture. Ça a été importé directement. Moi je suis probablement le seul néerlandophone qui habite en Wallonie. Moi je me ramasse les deux influences, j'aime bien ça, je trouve ça rigolo. Mais quand tu regardes ce qu'un francophone regarde, tu as l'influence française. Et ça devient un peu le point de vue de eux. Donc au lieu d'avoir par exemple Elvis comme référence, tu as Johnny. Au lieu d'avoir Patrick Adams comme référence, tu vas avoir Cerrone. Les points de vue, question musicale d'un DJ flamand sont souvent Londres, New York, San Francisco, Chicago.
Yves Sifa est un jeune DJ bruxellois qui mixe de l'Afro House, une house mélangée à des chants et des rythmes africains. Il s'inscrit aussi dans la tradition new-yorkaise d'une house spirituelle et sensuelle. Yves Sifa mixe peu à Bruxelles, hormis au Next Club, un bar lounge situé dans le quartier Flaget. Sinon, la plupart du temps, il mixe en Flandre.
Quand je mixe, c'est souvent en verse, à l'absinthe bar. Et en fait, ici, les gens, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne connaissent pas trop la vraie house. Ils pensent souvent que c'est du lounge, mais ce n'est pas du lounge. Par exemple, ici, pour s'amuser, tout le monde doit écouter de l'électro, apparemment. Donc moi, je trouve que ce n'est pas le cas. Souvent ils aiment bien, mais ils disent ouais pendant 20 minutes, mais après il me faut quelque chose de plus hard quand même quoi. L'afro house c'est très spirituel, Il y a beaucoup de percussions, beaucoup de sons africains, mais il y a toujours la basse de la house. Et la deep house, c'est plus vocal, donc avec beaucoup de chanteurs, et un peu, on dirait un peu du gospel sur de la house en fait. Souvent, il y a un message d'amour et de paix qui est véhiculé par ce genre de musique. Hein. Quand j'étais à l'étranger, et là où il y a beaucoup de gens qui écoutent du soulful et deep house, et de l'afro house aussi, c'est souvent des adultes qui écoutent ça. Donc, la tranche d'âge, on va dire, c'est de 27 à... J'ai même vu des gens de 60-50 ans qui écoutaient ça là. Il faut vraiment être ouvert d'esprit pour aimer ce genre de musique. Je vais te faire écouter donc maintenant un morceau de Bodhisattva. Ça s'appelle Mangala Camara. Il y a toujours la basse, mais c'est déjà plus lent. Et tu sens déjà le son africain dedans. Je vais le faire un peu avancer.
Bodhisattva est l'un des fervents représentants de l'Afro House. Producteur, propriétaire du label Offering Recordings, il est aussi signé sur les labels Dosulande, DJ américain d'Afro House, et Louis Vega, DJ new-yorkais.
Mon parcours musical a été d'abord musique africaine, parce que je suis né et j'ai grandi en fait en République centrafricaine, d'un père franco-centrafricain et d'une mère belgo-américaine. Ensuite, effectivement, il y a eu mon père m'a... Enfin, il faut dire qu'à la maison, on écoutait beaucoup de jazz aussi, de la musique classique. Donc du coup, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, j'ai découvert la deep house, en fait, au travers de l'album de Kevin Yost. Je sais plus lequel c'est, mais en tout cas c'était pour moi une révélation. Quand j'ai découvert ça la première fois, j'ai dit merde, c'est quoi ce truc? Ça synthétisait tout ce que j'avais en tête musicalement parlant.
Son nom de scène, emprunté à la religion bouddhiste, désigne des êtres qui ont atteint l'état d'éveil. Bodhisattva est tout entier dévoué à sa musique et cherche à travers elle à éveiller l'esprit. Il la baptise d'ailleurs Ancestral Soul, comme si le rythme tribal contenait l'essence d'une spiritualité primitive qui deviendrait une forme d'énergie universelle.
Aujourd'hui, moi, j'appelle ça Ancestral Soul. Je pars du principe que si on est fait d'énergie, on est fait d'électricité d'une certaine manière, par conséquent, on peut générer une énergie. Alors, autant qu'elle soit positive si on est capable de le faire.
Vous pouvez imaginer sur Ancestral Soul, la Deep House. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bodhisattva. Et merci à vous tous, d'être là. Merci à tous. Merci.
Quand j'ai la chance pour la première fois d'aller mixer à New York, merde, j'ai pris une baffe. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était la folie. J'ai vu des gens rentrer en transe, s'asseoir en position de lotus sur la piste et commencer à rentrer en... Ah oui, c'était très impressionnant. Tu vois des danseurs du Paradise Garage, du Studio 54 qui viennent encore danser avec leur tambour. Tu vois, c'est incroyable. Quand tu expérimentes ça pour la première fois, c'est... Je dirais même choquant, mais dans le sens positif du terme. T'as vraiment des larmes aux yeux parce que tu vois vraiment les gens qui sont en symbiose avec ce que tu fais, si forcément ça leur plaît. Et je dirais que le public new-yorkais, par exemple, est un public super difficile. Si tu l'approches pas bien, si t'es trop hautain, si t'es machin, tu vas forcément pas marcher parce que ils voient les choses de manière plus profonde, plus spirituelle que beaucoup. Tu vois, ils veulent que t'aies un message qui ait du contenu et du contenant. Voilà. Le truc de cette musique, c'est que c'est vrai que c'est une musique interne, c'est-à-dire que tu intériorises le son. Donc tu vas être beaucoup plus en symbiose avec toi-même, ce qui fait que ça peut te faire flipper. Hein. Si les gens ils ont du mal-être avec eux-mêmes, c'est normal que ça les fasse flipper. Mais la plupart du temps, les gens vont plutôt aller dans un club où on va jouer des trucs super formatés, c'est-à-dire que ton esprit ne réfléchit pas.
L'avenir de la house se trouve peut-être en Afrique du Sud. Dans les années post-apartheid, le Kwaito, sorte de house locale, a permis à la jeunesse sud-africaine d'exprimer sa joie et sa liberté.
Je dirais que dans l'ensemble, les pays vraiment qui achètent le plus, que moi je fais en tout cas en tant que producteur, compositeur, ça, c'est l'Afrique du Sud et les États-Unis. La scène house, par contre, c'est une religion en Afrique du Sud. La deep house, c'est une religion. C'est-à-dire que Universal Music signe des artistes qui sont dans la deep en Afrique du Sud. C'est un domaine où les gars, nous ici, on roule en Ford, là-bas, ils roulent en Porsche. ils font, c'est sur un autre niveau. Mais en même temps, c'est un autre marché. Les gens sont, achètent encore du vinyle, ils achètent des CD. Nous, on est dans le téléchargement. La plupart des gens, quand tu leur demandes, tu achètes de la musique, hein, quoi ? Non, je télécharge. Mais ça nous tue un petit peu parce qu'on n'est pas des majors, on n'est pas des, on n'a pas de gros moyens. Mais oui, c'est en train de bouger. Et oui, c'est un avenir.
La house, en atterrissant en Afrique du Sud, donne un écho intéressant à ses origines afro-américaines. C'est comme si elle retrouvait sa mère spirituelle, sa terre ancestrale. Le documentaire « Des chaînes en fer aux chaînes en or » diffusé sur Arte en 2008 retraçait l'histoire de la musique black. Mais il n'a pas été question ni de la house, ni de la techno. Cet oubli fréquent démontre que la dance music inventée par les Noirs n'a pas été créditée comme le jazz ou la soul, par exemple. Pourtant, si la house n'a pas inventé la musique électronique, elle a réinventé le rituel festif.
Ce qui fait fort finalement dans la house, c'est que ça réintroduit la trance. Donc d'abord chez les communautés black, et bon, qui ne l'avaient pas perdu, on va dire, et puis après chez les petits blancs qui ne dansaient pas. Et ça, c'est quand même assez magique finalement. Ça prouve qu'il s'est passé un truc.